Si vous êtes fatigué de crier sur vos enfants, si vous avez l'impression de ne pas être la mère ou le père que vous avez toujours rêvé d'être, si vous rêvez de relations familiales plus apaisées, plus sereines, si vous cherchez l'équilibre entre fermeté et bienveillance, sans basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Les jeudis soirs, du 16 mai au 27 juin, j'organise un atelier de parents en ligne, en tout petit groupe. Durant 7 semaines consécutives, je partagerai avec vous tous les outils de la discipline positive qui m'ont moi-même aidé à la fois à dépasser mon tempérament colérique et aussi à établir des relations plus saines et apaisées avec mes enfants. Nous ferons des jeux de rôle pour tester ces outils et voir ce qui vous convient. Nous réfléchirons ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes parentaux et nous nous encouragerons mutuellement tout au long de ce parcours. Tout se passe sur Zoom. Vous pouvez donc participer à l'atelier tranquillement depuis chez vous sans payer une babysitter. C'est parfait pour les parents solos qui n'ont pas forcément un relais facile à la maison. Et pour encourager les couples à participer à deux, eh bien j'offre l'inscription à l'atelier aux deuxièmes parents. Alors rejoignez-nous vite, les places sont limitées et les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au dimanche 5 mai pour nous laisser le temps de vous envoyer votre colis de bienvenue avec tout ce dont vous aurez besoin pour l'atelier. Moi j'espère vous retrouver très vite dans un groupe aussi extraordinaire que ceux des dizaines et des dizaines de parents qui ont déjà participé à des ateliers comme celui-ci et qui en sont tous sortis tellement plus sereins. C'est simple, on a un taux de satisfaction de 100%. Toutes les infos sont sur la page d'inscription de l'atelier que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. Alors bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Lorsque je vous ai demandé, il y a quelque temps, quelles idées vous aviez envie que je traite dans mes futurs podcasts en 2024, eh bien, l'une d'entre vous m'a demandé comment gérer des enfants d'âge différents en IEF, donc en instruction en famille à la maison. Et effectivement, même si la pédagogie Montessori est bien connue pour mélanger les âges, ça reste quand même dans une certaine limite, c'est-à-dire que les âges sont mélangés dans des tranches d'âge spécifiques. Par exemple, vous avez la tranche d'âge, disons, des bébés qui ne savent pas encore marcher. Vous avez la tranche d'âge des bambins qui savent marcher jusqu'à 3 ans. Vous avez les 3-6 ans, les 6-9 ans, les 9-12 ans et les adolescents. Mais dans la pédagogie Montessori, on ne mélange pas des enfants issus de ces différentes tranches d'âge. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que dans ces tranches d'âge différentes, les enfants ont des périodes sensibles différentes. Par exemple, entre 6 et 12 ans, on est attiré par le monde entier. On a besoin de découvrir le monde. C'est une période fabuleuse pour explorer l'histoire, la géographie, l'infiniment grand, l'infiniment petit, les animaux exotiques, etc. Alors que les enfants de moins de 6 ans sont surtout intéressés par leur environnement proche. Ils ne sont pas prêts encore à aller explorer le monde et l'univers. De même, avant 6 ans, vous avez les enfants qui sont très attirés par le langage, d'abord oral, puis langage écrit, alors qu'entre 6 et 12 ans, ils le sont tout de même beaucoup moins. C'est pour ça qu'on essaie de proposer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture aux enfants avant 6 ans. Donc vous avez ces différences de périodes sensibles, et puis vous avez aussi des différences de fonctionnement. Avant 6 ans, les enfants ont un esprit absorbant, c'est-à-dire qu'ils absorbent tout ce qui les entoure comme des éponges, alors qu'à partir de ce qu'on appelle l'âge de raison, vers 6-7 ans, il y a plutôt un esprit rationnel qui intellectualise, qui rationalise tout ce qu'ils voient. Donc évidemment, les deux sont différents et on peut difficilement mélanger des enfants dont le fonctionnement est aussi différent. Et puis enfin, il y a des différences de centres d'intérêt. Les jeunes enfants de moins de 6 ans ont des centres d'intérêt qui sont généralement plus proches de l'univers de la maison, de la famille, alors que, comme je vous le disais, les enfants de 6-12 ans ont une ouverture culturelle beaucoup plus grande et sont prêts à s'intéresser à des sujets bien plus variés. Alors, comment faire ? Nous allons partir avant tout des particularités et des besoins spécifiques de chaque tranche d'âge. Et vous allez voir que oui, c'est compliqué parfois, ça dépend des tranches d'âge qui sont représentées dans notre famille, mais c'est possible. Et je dirais même que c'est davantage possible si on utilise la pédagogie Montessori que d'autres pédagogies à la maison. Déjà parce qu'avant 6 ans, le travail est essentiellement individuel et que donc il suffit de présenter régulièrement de nouvelles activités aux enfants, mais qu'ensuite ils vont se les approprier et ils vont les reprendre en autonomie, de façon individuelle. Donc le rôle de l'adulte est essentiellement, un, de préserver l'ambiance, et deuxièmement, d'apporter de nouvelles présentations pour donner un peu de grain à moudre aux enfants. Et puis entre 6 et 12 ans, là, l'apprentissage Montessori se fait beaucoup par du travail de groupe, mais pas forcément avec des enfants qui ont rigoureusement le même âge. On n'a absolument pas besoin d'avoir 2 ou 3 enfants de 7 ans. On peut très bien proposer une présentation et un travail de groupe à un enfant de 6 ans, un autre de 8 ans et un autre de 11 ans. Ça n'a pas d'importance. Il y a des choses qu'on va adapter, et ça, je vais vous le détailler, mais tout cela reste parfaitement possible. Alors, on va aborder, donc, comme je vous le disais, les difficultés possibles, tranche d'âge par tranche d'âge. Le plus simple, il s'agit des bébés qui ne se déplacent pas. Personnellement, je trouve que c'est l'idéal, c'est la tranche d'âge la plus facile. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils dorment beaucoup. Donc, on peut profiter de tous ces temps de sieste pour travailler tranquillement avec les autres enfants. Et lorsqu'ils sont éveillés, 3 possibilités. Ou bien ils ont faim. Et là, c'est vrai que c'est plus facile si on allaite, parce qu'on peut allaiter avec un seul bras et utiliser l'autre bras éventuellement pour faire une présentation à un enfant ou pour l'aider pour quelque chose. Si on veut donner le biberon, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin des 2 bras. Donc là, c'est un petit peu tangent. Mais bon, ce sont des moments qui ne durent pas non plus toute la journée. D'autres moments, l'enfant, le bébé, va être éveillé, bien actif, et ça va être l'occasion de lui proposer des temps d'éveil sur son propre tapis. On va pouvoir l'installer, par exemple, sous un mobile, on va pouvoir l'installer à côté d'un miroir pour l'encourager à se retourner, à se déplacer. On va disposer autour de lui des petits hochets, des choses qu'il va pouvoir toucher, manipuler. Et donc, on va l'installer là, et ce qui est extrêmement facile, c'est que le bébé ne se déplace pas, donc il est très très facile à surveiller. Et on peut par exemple orienter la table sur laquelle on fait les présentations aux autres enfants vers le tapis du bébé. Et on n'a qu'à garder l'œil sur lui, mais on n'a pas besoin d'être juste à côté, on n'a pas besoin de l'occuper pendant ces temps d'éveil. Alors, ces temps d'éveil vont rester assez courts. Et il y aura d'autres moments où le bébé aura besoin de câlins. Et c'est là que je vous recommande chaleureusement le portage, porté en écharpe en particulier avec les tout-petits. C'est très pratique, parce que le bébé est très confortable, il est au chaud contre son papa ou sa maman, et ça vous libère les mains pour pouvoir faire des présentations avec d'autres enfants. Donc ça, je l'ai beaucoup fait moi-même. Je trouve que c'est vraiment l'âge le plus facile à gérer dans un environnement familial où on a plusieurs enfants à la maison. À côté de ça, vous avez... un petit peu plus compliqué, les bébés qui se déplacent en rampant ou qui font du 4 pattes. Là, il va falloir modifier l'environnement. Parce qu'il va falloir mettre en hauteur tout ce qui va être trop dangereux pour eux. Et il y en a des choses. Tout ce qui concerne les versets, les transvasements, où on utilise souvent des pois chiches, des lentilles, des choses qui peuvent être très dangereuses si les bébés les mettent à la bouche et les avalent. Ils peuvent s'étouffer avec. Donc tout ce qui est dangereux, ça peut être aussi la tour rose, dont les petites pièces, les petits cubes, peuvent être avalés par l'enfant. Tout ce qui peut être avalé par l'enfant doit être mis en hauteur. Donc ça implique un petit peu d'adaptation à ce stade-là. Et vous pouvez, à l'inverse, proposer des petites étagères à hauteur du bébé qui rampe, c'est-à-dire des petites étagères où vous avez juste une étagère au niveau du sol et une un peu plus haut, mettons à 30 cm, que l'enfant qui rampe ne pourra pas encore atteindre, mais ce sera l'étape d'après, ça va l'inciter à se mettre debout. Et en tout cas, sur ces étagères, l'enfant pourra s'appuyer pour justement essayer de se mettre debout. Donc on peut lui proposer ces petites étagères-là, éventuellement pour délimiter son espace à lui. Il peut avoir son tapis, parce que chez les tout-petits travaillent sur tapis, on les installe sur le tapis, alors que plus tard, c'est le matériel qui trouve sa place sur le tapis, mais l'enfant doit être assis à côté du tapis. Et là, avec les tout-petits, donc ils peuvent avoir leur tapis d'éveil, avec des petites étagères autour, ça délimite leur espace, ça les incite à rester dans leur espace. Et donc, vous pouvez disposer le matériel pour les plus grands sur d'autres étagères qui sont hors de sa portée, et idéalement donc en hauteur. Et surtout, 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 ne jamais laisser un enfant à ce stade-là, seul, avec du matériel avec lequel il risquerait de s'étouffer. De toute façon, ne jamais le laisser seul, en fait, tout simplement. Personne n'a envie d'avoir un enfant roi. Et personne n'a envie non plus d'avoir un enfant complètement éteint et soumis parce qu'on l'aurait dressé à coups de claques ou de fessées. La grande difficulté de notre tâche de parent, c'est d'équilibrer la fermeté et la bienveillance sans jamais basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme. Eh bien, c'est justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance que je vous invite aujourd'hui à participer à notre atelier de parents en ligne qui se déroulera sur Zoom du 16 mai au 27 juin prochain. Durant ces 7 séances, nous allons apprendre à poser un cadre dans toute la famille. Nous allons travailler sur ces notions de fermeté et de bienveillance, sur ce qui nous amène à plus de fermeté, ce qui nous amène à plus de bienveillance, pour essayer d'être les deux à la fois, et non pas de basculer entre le matin et l'après-midi, où on va être ferme le matin et beaucoup trop bienveillant l'après-midi. Et on va aussi apprendre à nous ressourcer. Dans la troisième séance, on va travailler sur l'ordre de naissance et son impact sur les enfants. Et nous allons aussi étudier ce que sont les comportements inappropriés chez les enfants et comment on peut y répondre. Dans la quatrième session, nous allons faire tout un bloc pour passer de la punition à la recherche de solutions. C'est le bloc central de tout cet atelier et croyez-moi, c'est là qu'il y a les prises de conscience les plus phénoménales. Ensuite, on abordera la gestion des conflits, en particulier dans la fratrie, mais aussi évidemment entre enfants et adultes. Ensuite, on apprendra à mieux nous connaître grâce à un travail qu'on appelle les cartes dominantes. Et puis, on apprendra à trouver des solutions tous ensemble en famille. Et enfin, durant la dernière séance, nous verrons comment passer un accord et nous y tenir et faire en sorte que tout le monde dans la famille s'y tienne. Voilà, si ce programme vous tente, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier de parents. Pour cela, c'est très simple. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode et vous avez tout simplement jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire. Il nous faut un petit peu de temps pour préparer l'atelier, vous envoyer votre colis de bienvenue dans lequel vous retrouverez le livre La discipline positive et un porte-vue avec tous les documents qui pourront vous être utiles, toutes les ressources dont nous aurons besoin pendant l'atelier. Je vous laisse écouter la fin de votre épisode et n'hésitez pas donc à consulter le lien d'inscription qui se trouve dans les notes de votre podcast. Le stade suivant, c'est celui des bambins, c'est-à-dire les bébés qui commencent à se déplacer de façon suffisamment assurée, alors qui se mettent debout, qui commencent à se mettre debout, qui commencent à marcher et qui marchent de manière assurée. Vous avez toutes ces catégories-là que je vais regrouper. Et là, pour moi, c'est l'âge critique. C'est l'âge le plus difficile à associer avec d'autres tranches d'âge. Mais je l'ai fait, hein. Ça fait, j'ai 10 ans d'expérience de l'instruction en famille avec des enfants d'âge très différents, avec des bébés, des bambins, des jeunes enfants, des enfants plus grands et même des adolescents. C'est possible. Tout ce dont je vous parle, ce n'est pas de la théorie, hein, c'est vraiment mon expérience de terrain. Mais clairement, ce sont les périodes les plus lourdes pour moi, l'adulte, et les plus stressantes. Parce que les bambins peuvent atteindre à peu près tout ce que vous mettez à disposition. Donc il va falloir les surveiller non-stop, leur accorder un maximum d'attention. Et la meilleure solution que j'ai pu trouver, c'est d'accepter d'investir du temps pour les occuper. Donc, leur accorder beaucoup d'attention au démarrage, prendre le temps de trouver les activités qui vont vraiment les intéresser, On va tâtonner un petit peu, on va leur proposer peut-être des activités de langage, des activités de motricité, de coordination œil-main. On va leur proposer des activités de vie pratique, suivant l'âge. Et donc, il faut vraiment passer ce temps en amont pour trouver les activités qui vont vraiment les passionner. Parce que c'est pendant qu'ils seront passionnés par une activité qu'on va pouvoir gagner un peu de temps pour s'occuper des autres, des plus grands en particulier, à qui il faut faire des présentations. Donc, voyez ce temps comme un investissement. Peut-être que vous allez passer au début beaucoup, beaucoup de temps avec votre enfant de cet âge-là. Mettons entre 8 mois pour les plus précoces, mais disons plutôt 10 mois, jusqu'à 3 ans à peu près. Vous allez investir du temps en amont pour en gagner ensuite. Parce que si votre enfant est passionné par ce qu'il fait, il peut rester concentré une heure sur la même activité. C'est tout à fait possible. Pas à 8 mois, hein, mais à 2 ans, il peut tout à fait rester une heure sur une activité. Et une fois que vous aurez trouvé ces activités qui le passionnent, eh bien, vous aurez plus de temps à consacrer aux autres. Ça implique, du coup, d'expliquer aux plus grands ce qu'on est en train de faire. Ça implique de leur faire comprendre que oui, là, je suis bien consciente que je passe plus de temps avec ton petit frère ou ta petite sœur. Mais c'est pour que plus tard, on ait plus de temps, toi et moi. L'autre grosse astuce que je vous recommande, c'est de profiter des siestes des bambins pour faire des présentations aux plus grands. C'est vrai qu'en instruction en famille, chez nous, nous avons souvent tendance à ne travailler que le matin. Mais chaque fois que j'ai eu des bébés dans cette tranche d'âge-là, eh bien, j'ai profité du temps du début d'après-midi où le bambin faisait sa sieste pour faire des présentations aux plus grands. Donc, je décalais le temps de présentation à l'après-midi. Et là, on avait un super équilibre parce que le matin, je consacrais plus de temps aux plus jeunes, mais en début d'après-midi, les plus grands m'avaient quasiment pour eux tout seuls. Alors, parfois, ils étaient deux ou trois, mais on avait beaucoup plus de temps en individuel, côte à côte, pour faire les présentations. Et donc, leur réservoir affectif à eux était nourri. Je vous avais demandé, avant d'enregistrer ce podcast, quelles étaient vos questions. Et l'une d'entre vous m'a justement posé une question sur cette difficulté-là, parce qu'elle aurait aimé entendre des idées, des trucs et des astuces pour que son grand de 5 ans et demi puisse accueillir comme un grand et accepter sa petite sœur dans les moments d'IUF qui étaient jusque-là son moment privilégié avec elle. Donc c'est Jade qui m'a envoyé ce message sur Instagram. Et justement, là, on atteint un petit peu ce stade où la petite sœur n'est plus un bébé et elle va devoir être impliquée elle aussi dans le travail vraiment d'IUF. Et ça va être important, j'imagine que la petite sœur va garder des siestes l'après-midi. C'est très très important de faire du moment de ses siestes des moments privilégiés avec le plus grand. Et puis, c'est là où donc on bascule dans la tranche d'âge des 3-6 ans, et là aussi ça va s'appliquer à la question de Jade. Chez les 3-6 ans, il va y avoir certaines présentations où les enfants ont beaucoup besoin de nous et ont besoin d'une grande régularité. Par exemple, lorsqu'on présente les lettres rugueuses, il va falloir passer par toutes les lettres de l'alphabet, les unes après les autres, et il va pas falloir prendre 3 ans pour le faire. Il faut que ce soit régulier pour profiter de l'intérêt de l'enfant à un moment donné. Donc il faut que ça aille relativement vite. Idem avec le travail sur les nombres. Quand on commence à introduire les premiers nombres de 1 à 9, il y a un travail régulier à faire. Même chose quand on travaille sur la mémorisation des tables d'addition, de soustraction, et puis plus tard de multiplication et de division. C'est un grand travail qui demande beaucoup de régularité et même si l'enfant fait l'essentiel du travail seul, il va falloir qu'on soit là quand même pour chaque nouvelle étape de la mémorisation. Il y a en général une dizaine d'étapes, ça dépend un petit peu des opérations. Et donc à chaque nouvelle étape, l'enfant a besoin de nous pour faire la présentation suivante. Donc il est très important de garder du temps pour ces présentations-là. Et c'est là où justement on peut profiter des siestes des plus petits. Et à l'inverse, si on a un enfant plus grand, eh bien, on peut le recruter pour faire des présentations à un enfant plus jeune, entre 3 et 6 ans. Alors, là, c'est quelque chose d'un peu délicat. Ça peut présenter beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que c'est très valorisant pour le plus grand. Ça peut être motivant pour le plus jeune s'il admire
son grand frère ou sa grande sœur. Mais, c'est quelque chose qu'en général, je recommande avec beaucoup, beaucoup de précautions dans une fratrie. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de dynamiques compliquées. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des rivalités, des conflits entre frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose que je ne vous recommande que si les relations sont excellentes entre frères et sœurs. Mais là, en l'occurrence, pour Jade, ça peut être quelque chose de valorisant pour votre grand. Et peut-être que ça peut justement permettre de conserver de bonnes relations avec sa sœur. Mais c'est uniquement si leurs relations sont déjà très bonnes au départ. Sinon, on prend un risque. On prend le risque que le grand frère frime un petit peu, méprise sa petite sœur et que la petite sœur se sente jalouse du grand frère et qu'elle ait l'impression d'être nulle en comparaison du grand frère. Donc, il faut que ça se fasse avec beaucoup d'amour et vraiment beaucoup de bonnes relations entre frères et sœurs. Il faut que les relations soient très, très apaisées. Donc, pour les 3-6 ans, on peut garder dans le temps commun les présentations assez simples, assez rapides. Et on peut profiter des moments où on a un peu plus de tranquillité. Par exemple, si on a un bambin qui est en train de faire la sieste ou qui est très occupé lui-même sur une activité, ben on peut faire ces petites présentations, je dirais, sans trop d'enjeux. Et pour toutes les présentations qui doivent être régulières, pour lesquelles on doit vraiment les faire éventuellement quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, et ben on peut se fixer un rendez-vous pendant la sieste des plus jeunes. Et sinon, eh bien, on peut aussi utiliser, comme je vous le disais, l'aide d'un plus grand pour faire des présentations aussi. Enfin, on en arrive aux 6-12 ans. Je dis enfin parce que pour les adolescents, c'est tellement différent. Et puis, ils sont tellement plus autonomes aussi que les choses sont évidemment très différentes. Et de toute façon, c'est vrai que ce qui est prévu par la pédagogie Montessori pour les adolescents implique un apprentissage en groupe d'adolescents. Donc évidemment, en instruction en famille, c'est plus délicat, il y a d'autres choses à adapter. Et j'ai fait un podcast spécifiquement sur la pédagogie Montessori pour les adolescents. Mais en général, on a moins besoin de les avoir dans la même salle de classe que les plus jeunes, ils peuvent travailler de façon plus autonome. Donc, avec les 6-12 ans, qui va être la dernière catégorie, dernière tranche d'âge que je vais aborder avec vous aujourd'hui, on a déjà plusieurs outils montessoriens qui vont nous simplifier les choses. Par exemple, le système du contrat de travail. On peut avoir un rendez-vous hebdomadaire avec chaque enfant entre 6 et 12 ans pour établir leur contrat de travail sur la semaine, les choses qu'il serait bon qu'ils travaillent, les présentations que l'on va leur faire. Et puis, on va établir avec eux aussi des routines avec des choses à faire tous les jours. Ce qui implique quand même un certain choix. Par exemple, je m'explique. Chez nous, nous avons un fils de 9 ans qui travaille uniquement avec la pédagogie Montessori et qui travaille, par exemple, le calcul. Eh bien, le calcul, les mathématiques, il va pouvoir les travailler en faisant un exercice de calcul mental. Il va pouvoir faire des opérations où il lance les dés pour que les chiffres sur les dés, on a des dés de différentes couleurs, pour milliers, centaines, dizaines et unités. Donc il va lancer les dés. Les dés vont lui donner un nombre à 4 chiffres. Il va relancer les dés pour un deuxième nombre à 4 chiffres. Il va pouvoir travailler addition, soustraction, multiplication, division, etc. En totale autonomie, puisque ce sont les dés qui vont lui donner les nombres qu'il va avoir à utiliser. Il peut faire aussi des cahiers de problèmes, où là il va y avoir un petit peu d'écriture, de rédaction. Dans tous les cas, il aura travaillé le calcul. Mais je tiens à ce que chaque jour, il fasse une ou plusieurs opérations. Plusieurs opérations. Donc il sait que c'est sa routine, il sait qu'il va devoir faire des opérations. Ensuite, le format qu'il choisit pour travailler les opérations, là, il est libre. Ça peut être du calcul mental, ça peut être des problèmes, ça peut être des opérations avec des dés. Parce que je sais qu'il travaille tout ça de façon équilibrée. S'il y avait un domaine qu'il aimait moins, bah, je lui laisserais peut-être moins de liberté aussi. De manière à m'assurer qu'il travaille de façon équilibrée le calcul mental, la rédaction, etc., qui sont évidemment des compétences différentes en calcul et en mathématiques. Mais donc, il peut y avoir des routines. De la même façon, tous les jours, ce fils Stanislas travaille la conjugaison. Il conjugue au moins un verbe chaque jour. Voilà, c'est sa routine, il le sait. Il n'a pas besoin de moi pour le faire, il est en totale autonomie. et il a ainsi sa routine de travail quotidienne. Et puis, donc on peut avoir une routine de travail peut-être hebdomadaire, un contrat de travail. On va se dire, bah, cette semaine, j'aimerais que tu avances un petit peu en géographie parce que tu as bien démarré, ça te plaît bien. Voilà, j'aimerais que tu travailles sur peut-être 3 ou 4 pays supplémentaires cette semaine. Et puis, chez les 6-12 ans, les enfants peuvent commencer aussi à faire des recherches en individuel ou en groupe pour faire des exposés, pour faire des lab books, pour apprendre tout simplement des choses sur un sujet sans forcément les restituer à l'oral. Ils peuvent simplement se faire des petits comptes rendus écrits. Donc tout ça, le contrat de travail, les routines quotidiennes, les recherches individuelles, eh bien, ça peut se faire en totale autonomie. À côté de ça, vous avez différentes possibilités de travail en groupe. Si vous avez plusieurs enfants entre 6 et 12 ans, vous allez pouvoir leur faire des présentations en groupe, même si on a un de 6 ans, un autre de 12 ans, un autre de 8 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que le plus grand va évidemment approfondir un peu plus le sujet que les plus jeunes. Là aussi, chez les 6-12 ans, vous pouvez profiter du temps de l'après-midi, et vous pouvez avoir un temps, je dirais, un peu plus dédié avec vous l'après-midi, même si vos plus jeunes enfants ne font pas la sieste, parce que les plus jeunes peuvent faire des jeux de petits, des choses qui ne tenteront pas le plus grand, pendant qu'avec votre grand, bah, vous travaillerez sur un exposé ou sur des choses qui le passionnent, que vous lui ferez de nouvelles présentations, et c'est un âge, une tranche d'âge où, comme je vous le disais, les enfants sont généralement passionnés par le monde, ils ont besoin de s'ouvrir sur le monde, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce qui s'est passé il y a très longtemps, etc., etc. Pensez aussi aux activités qui peuvent être mixtes entre toutes ces tranches d'âge. Vous pouvez aborder un même sujet, par exemple la musique, mais en posant des questions différentes suivant l'âge. Par exemple, chez nous, chaque semaine, nous faisons 1 heure de musique en commun. Et quand je dis en commun, c'est même avec mon mari, qui n'a pas fait tellement de musique quand il était jeune, il n'a jamais appris à jouer d'un instrument. Et à l'âge adulte, il s'est décidé à apprendre à jouer du piano. Et il a envie d'en apprendre plus sur la musique, aussi bien la théorie musicale que l'histoire de la musique, la culture musicale, etc. Et donc, nous faisons tous ensemble, avec une fille de 6 ans, un garçon de 9 ans, un garçon de 13 ans et mon mari adulte, nous faisons donc des séances d'écoute musicale. Sauf que je ne vais pas demander la même chose à chacun. Pour les plus petits, vous pouvez demander est-ce que c'est lent ou rapide ? Est-ce que c'est aigu ou grave ? Est-ce que c'est fort ou doux ? Et ça, vous pouvez même le faire avec des images. Par exemple, dans l'accompagnement des Montessori 7, on a toute une rubrique sur la musique, on a beaucoup de choses sur la musique. Et j'ai une fiche d'écoute pour les très jeunes enfants avec des images. Donc ça peut être lent comme... je sais plus ce que j'ai pris comme animal, d'ailleurs, comme l'escargot, je crois. Vous avez différents animaux. Est-ce que c'est rapide comme le cheval ? Même chose pour grave ou aigu, vous avez des images qui peuvent aider l'enfant à se représenter ce que ça veut dire. Pour les moyens, vous allez pouvoir leur proposer de reconnaître les instruments qu'ils entendent. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse ? Est-ce qu'il y a des instruments à cordes ? Quels instruments à cordes ? Etc., etc. Vous pouvez aussi leur demander quelles émotions ils ressentent face à la musique. D'après eux, qu'est-ce que ce morceau cherche à transmettre comme émotion ? Et puis pour les plus grands, on peut aller beaucoup plus loin. Ils vont faire aussi ce travail lent, rapide, aigu, grave, quels sont les instruments, les émotions, etc. Mais ça va être beaucoup plus rapide pour eux. Et donc, à partir de tous ces éléments, vous pouvez leur demander de reconnaître peut-être le genre musical. Est-ce que c'est de la musique romantique ? Est-ce que c'est de la musique de la Renaissance ? Est-ce que c'est de la musique moderne, dodécaphonique, ou je ne sais pas ? Quelle est la forme aussi musicale ? Est-ce que c'est un concerto ? Est-ce que c'est une symphonie ? Bon, là, je vous parle évidemment de musique classique, mais c'est la même chose pour le jazz. Est-ce que c'est du blues ? Est-ce que c'est de la soul ? Est-ce que c'est du R&B ? Voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en écoutant un même morceau avec des enfants et même des adultes, comme je vous disais, de tous les âges. Je vais vous donner un autre exemple en géométrie. Pour les plus petits, vous pouvez leur demander d'associer un contour à une forme. Pour les enfants qui commencent à être lecteurs, vous pouvez leur proposer d'ajouter le billet de lecture. Est-ce que c'est un triangle ? Est-ce que c'est carré, est-ce que c'est un rectangle? Et puis pour les plus grands, eh bien vous pouvez travailler sur les propriétés de la forme sur laquelle vous travaillez. Par exemple, il y a trois côtés égaux dans le triangle équilatéral. Les angles aussi sont égaux dans le triangle équilatéral. Vous pouvez aller très loin, c'est-à-dire que si vous avez, comme moi, un collégien, eh bien, dans le triangle équilatéral, la hauteur, c'est la même chose que la médiatrice et c'est la même chose que la médiane. Et on peut aller très loin en partant de la même forme qui va être le triangle équilatéral pour tous les enfants. Il y a d'autres domaines comme cela, comme la musique, comme la géométrie, où vous pouvez imaginer des activités mixtes en adaptant le niveau à chaque enfant. Par exemple, dans les expériences de botanique ou de physique-chimie, où vous allez pouvoir demander aux enfants, suivant leur âge, de faire un compte-rendu avec peut-être juste un schéma pour démarrer, et puis ensuite avec vraiment tout un compte-rendu d'expérience écrit, rédigé, ou avec les plus jeunes de simplement observer l'expérience. Vous allez pouvoir faire des explorations dans la nature, où là aussi, vous allez pouvoir aborder des choses simples avec des jeunes enfants, par exemple l'arbre, ses racines, les branches, les feuilles, la tige d'une plante, et puis avec des enfants un peu plus grands, les feuilles simples et les feuilles complexes, les différents types de fruits, comme les différents types de fleurs, etc., etc. Là, en ce moment, on a une époque où il y a beaucoup de chatons sur les noisetiers. Et puis avec les plus grands, on va peut-être chercher à identifier des plantes, des arbres un peu plus pointus, à partir de tous ces éléments qu'ils auront pu observer, comment sont réparties les feuilles, est-ce qu'elles sont alternées, etc. Donc, de quel arbre s'agit-il? Vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Et je trouve qu'il y a de très belles conséquences au fait de travailler à plusieurs, avec des enfants d'âges différents. Il y a une très belle émulation. Les plus jeunes veulent faire comme les plus grands. Et ça les motive, ça les pousse à en faire plus, à aller plus haut. Quant aux plus grands, s'ils se mettent à faire des présentations aux enfants un peu plus jeunes, ben ils apprennent mieux. Parce qu'en fait, il est évident que pour pouvoir transmettre quelque chose, l'enseigner, il faut bien plus le maîtriser que si on se contente de l'apprendre pour soi. C'est beaucoup plus difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un que simplement l'avoir compris pour nous-mêmes. Donc ça représente beaucoup de choses pour les grands, c'est très utile aussi pour les grands. Et puis, je trouve que, de manière générale, ça développe de belles relations de fratrie. Ça représente des challenges, on va pas se mentir. C'est un beau défi, mais c'est très stimulant, et je trouve que ils peuvent émerger de très, 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 très belles relations. Et je trouve aussi qu'il y a un fondement philosophique qui est très beau derrière tout ça, derrière le fait d'avoir des âges mélangés en instruction en famille. C'est qu'on va se mettre à la hauteur du plus petit, du plus faible. Exactement comme dans une balade, en fait, on est au rythme de celui qui marche le plus lentement. Ça peut être le plus jeune, ça peut être le plus âgé aussi, ou ça peut être celui qui a un handicap, ça peut être l'adolescent qui s'est cassé une jambe au ski, ou ça peut être la personne handicapée qui a besoin de plus de temps. Eh bien, c'est la même chose en instruction en famille. On se met au rythme aussi du plus petit et du plus faible. On s'adapte à la présence du plus petit et du plus faible, même si parfois ça implique des contraintes, même si ponctuellement ça peut vouloir dire que les plus grands vont perdre un peu de temps, peut-être, pour apprendre. Ils vont aussi apprendre des qualités humaines qui sont très précieuses, des qualités d'attention à l'autre, de prise en compte des besoins de l'autre. Et je pense que dans une société, alors désolé, hein, je pars un peu dans les hauteurs philosophiques, mais dans une société aujourd'hui où les personnes handicapées, les personnes âgées et les très jeunes enfants n'ont souvent plus vraiment leur place, on est dans une société de la productivité, de l'optimisation, bah, je trouve que c'est un rappel qui est important, de se dire que oui, c'est peut-être pas plus mal de se mettre à la hauteur du plus petit, du plus faible, du moins compétent peut-être. Ils ont tellement, tellement à nous apprendre en humanité. Donc voilà, je vais pas vous mentir, c'est stimulant, ça représente un beau défi, mais mélanger les âges en instruction en famille, c'est un système dont tout le monde ressort plus riche, aussi bien intellectuellement qu'humainement. Donc merci, merci beaucoup Marion pour cette belle question que tu m'as posée. C'était vraiment l'occasion d'aborder un thème important. Donc un grand, grand merci. Merci à ceux qui ont complété des questions. Il y avait aussi les petits brouillons sur Instagram qui m'avaient demandé comment organiser la chambre ou les jeux quand il y a plusieurs enfants d'âge différents dans la même chambre, de manière à ce qu'il y en ait assez, mais pas trop, et que chacun s'y retrouve. Alors, j'ai donné quelques pistes là, en mettant peut-être en hauteur les choses qui sont pour les plus grands. Donc là, pour l'enfant de 2 ans, et puis laisser vraiment au niveau du sol ce qui peut être manipulé par l'enfant de 6 mois. Et sinon, je vous encourage vraiment à regarder dans ma formation « Aménager sa maison Montessori », parce que je donne plein de conseils autour de la rotation des jouets. C'est l'un des thèmes que l'on aborde dans cette mini-formation très courte, où j'aborde tous les espaces de la maison, hein, l'entrée, la cuisine, la chambre, etc. Là, je voulais me concentrer quand même aujourd'hui vraiment sur l'espace de travail. Et puis encore une fois, c'est le rangement des jouets, c'est un sujet que j'aborde à fond dans cette formation. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ces questions très riches. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour 7 séances de 2 heures en discipline positive. Toutes les informations sont disponibles sur le lien d'inscription que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. À très bientôt !